aurez sans doute reconnu, donc je reprends mes notes, Dismello Djamou Africa, hein, le jingle de l'histoire d'Alim, puis What Power Are You de Vincent Perani, de son album Living Being Two, une reprise donc d'une fraction de l'opéra King Arthur de Purcell, dont Vincent Perani nous montre l'étonnante modernité. Moi, je suis toujours ébahi par ce morceau. Il y avait un petit bout d'Abdel Malik, c'est comme ça, enfin tout c'est comme ça d'Abdel Malik, aussi seconde, j'en dis de seconde jingle de l'histoire d'Oumarou. Qu'est-ce que je vous ai lu? Je vous ai lu 6 phrases parmi les 100 phrases pour éventail de Paul Claudel. Au blanc de neige, le poème qui s'appelle Décembre 16h50. 16h50 décembre, tiré de Au blanc de neige d'Henri Deluy. Et ensuite, le début de Pourtant si beau de Jean-Marie Berthier, que j'ai lu accompagné par le très beau piano et le très beau trio de Pierre de Bettmann, sur une reprise de Pulmarine de Serge Gainsbourg. Et je vous laisse en très bonne compagnie pour la suite.
C'est aux crocs venimeuses et gluants, je donne un coup de brosse à mon squelette. Je vous attends. L'idiot du village fait la queue et tend sa carte d'adhérent pour prendre place dans le grand feu. Je vous attends. J'entends siffler le vent au-dessus des calvaires et je vois les vampires sortir de leur cercueil pour venir saluer les anges nucléaires. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 aux griffes d'or et de diamants, je sais que la ciguë est prête. Je vous attends. Je sais que dans votre alchimie, l'atome, ça vaut des travelers chèques et ça suffit comme alibi. Je vous attends. À l'ombre de vos centrales, je crache mon cancer. Je cherche un nouveau nom pour ma métamorphose. Je sais que mes enfants s'appelleront Vert de terre. Moi, je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 au cerveau de jaspe et d'argent, il est temps de sonner la fête. Je vous attends. Vous avez le goût du grand art et sur mon compteur électrique j'ai le portrait du prince ringard. Je vous attends. Je sais que désormais vivre est un calembour, la mort est devenue un état permanent. Le monde est nos fantômes aux hyènes et aux vautours. Moi je vous dis bravo et vive la mort.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, qu'on comprenez? On est dans un système pourri. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi 2 décembre 2019.
Et on commencera à l'international sur un sujet sur la situation en Égypte et le régime autoritaire de Al-Sisi.
On enchaînera au national avec un spécial grève, spécial réforme des retraites, et au local.
Et au local, on enchaînera sur la grève victorieuse dans l'hébergement d'urgence à Lyon. Et ensuite sur la préparation sécuritaire de la fête des Lumières.
Et on finira par, toujours un peu sur le même sujet, une petite histoire de la grève. Qu'est-ce que c'est la grève? Pourquoi la grève? D'où ça vient? Et donc on commence avec, à l'international, pour une fois, un seul sujet, mais pas des moindres, l'Égypte.
Oui, l'Égypte s'enfonce dans son tournant autoritaire. Mada Masser, dernier média libre d'Égypte qui a été créé en 2013 à la suite de la révolution qui avait abouti au départ de Moubarak. Ce média s'est finalement fait interdire lundi dernier par le régime de plus en plus répressif du maréchal Al-Sisi. La censure du journal, qui a été suivie de l'arrestation de l'un de ses rédacteurs en chef ainsi que de la perquisition de leurs locaux, s'inscrit dans un tournant de plus en plus autoritaire du régime. Ça fait maintenant plusieurs années que celui-ci cherche à éliminer tout espace critique, qu'il soit médiatique ou politique, dans le pays. Les espoirs aujourd'hui qui sont nés du soulèvement de janvier 2011 se sont évaporés en grande partie et la population est confrontée à une dégradation de sa situation économique. Pour rappel, à l'issue d'un coup d'État, l'armée et le maréchal Al-Sisi avaient repris le pouvoir en juillet 2013 en destituant Mohamed Morsi, membre des Frères musulmans. Les pro-Morsi avaient été violemment réprimés, on parle d'un millier de morts par exemple en août 2013 sur la place Rabia au Caire. S'en est suivi des milliers d'arrestations un an plus tard jusqu'en mai 2014. Puis en mai, fin mai, Al-Sisi devient président de la République avec 97% des voix. Depuis, les militaires sont présents partout, dans tous les lieux du pouvoir, et en particulier dans l'économie. Alors que l'armée jouissait avant d'une aura positive, elle incarnait l'émancipation du peuple, aujourd'hui son rôle est tout autre. Il est nettement moins glorieux puisqu'elle s'assure qu'aucune révolution ne puisse à nouveau avoir lieu contre le régime en place. Dans un pays où toutes les chaînes de télévision, où toute la presse est aux mains du pouvoir et de ses amis, les espaces de contestation deviennent minimes. Alors que les soutiens aux frères musulmans sont massivement incarcérés ou exilés en Turquie, les militants révolutionnaires de 2011 font également l'objet d'une répression féroce. Beaucoup sont partis ou ont arrêté leur activité politique, ou quelques-uns se sont tournés vers les ONG qui n'échappent pas non plus au harcèlement policier en place et qui se voient interdire tout financement étranger. Pourtant, et on en a parlé ici en septembre, du 20 au 27 septembre dernier, alors que tout rassemblement avait été déclaré interdit et semblait impossible, plusieurs milliers de personnes sont quand même descendues dans les rues des principales villes pour exiger le départ du dictateur. Le mouvement, dont le déclenchement avait été des vidéos sur YouTube faites par un patron du bâtiment qui avait été lâché par l'armée, exilé à Barcelone et qui avait dénoncé la corruption en ligne, des milliers de manifestants sont descendus et ont regroupé surtout des jeunes issus des quartiers populaires et aussi de la classe moyenne appauvrie par la crise économique. Parce que la crise économique est très dure en Égypte. Depuis les mesures d'austérité imposées par le FMI en 2016, en échange d'un prêt de 12 milliards de dollars, ça avait provoqué une très forte inflation et plongé dans la précarité des millions de personnes. Le sentiment d'injustice avait été attisé par des décisions politiques injustes et désastreuses, création d'une TVA à 14%, augmentation des prix de l'énergie, alors qu'en même temps, Al-Sissi finançait la construction de palaces et d'hôtels de luxe. Après une semaine de contestation, là, en septembre dernier, le régime a écrasé les denrées révolutionnaires en mobilisant l'intégralité des forces militaires disponibles pour quadriller le territoire et procéder à plus de 3000 arrestations. Et évidemment, dans ce contexte, l'interdiction du dernier média libre lundi dernier nous indique l'ampleur de la contre-offensive menée par le gouvernement début septembre. Dans un rapport d'ailleurs publié mercredi dernier, Amnesty International parle d'état d'exception permanent et dénonce la mise en place d'une justice parallèle à l'intérieur des tribunaux de la sûreté d'État qui est destinée à criminaliser toute opposition.
Et une petite musique ?
Une petite musique. On va écouter le rappeur égyptien Mohamed El Deb qui est justement a émergé en 2011 sur la place Tahrir.
التورته رجعت للشعب البورصه وقعت من اللعب الشعار القديم رجع الشرطه في خدمه الشعب الحال كان صعب النهارده افضل احنا نقدر نزرع صحارتنا اخضر اتخلصنا من حكم هتلر فرعون ملعون بحكم تويتر وفيسبوك المصري ساير مدعوم بلغه الحق كانوا بيقولوا لنا لا مش فارقه معاهم ان شاء الله حتى الارض تنشق ثورتنا ثوره شعبيه سلميه وطنيه طالبنا بالحريه كرامه عداله اجتماعيه الشعب كان ممسوك بقبضه فولاذيه شغل مقاولة مصالح شخصية كانوا بيتعاملوا معانا بكل همجية يطلعوا القنوات الفضائية بتصاريح استفزازية انتصرنا في 11 فبراير فرحة مليونية ثغرات يا مصر يا بهية حققنا الحرية ثورة بعد ما خلصت هلأ بعد ما بلش لدورنا شكلها وصلت وانت بعدك بتفرشي ولك قوم وقف لحق بسنانك تفرشي ولك قوم وقف صديق نظامك عم يغزوي ثورة بعد ما خلصت هلا بعد ما بلش لدورنا شكلها وصلت وانت بعدك بتفرشي ولك قوم وقف لحق بسنانك تفرشي ولك قوم وقف صديق نظامك عم بيخزوي قوم يا مصري مفيش ثورة بتخلص في يوم وليلة دوس على نفسك شوية استحمل شد حيلك ما تخافش على عجلة الانتاج لازم ثورة على الزاد بكرة أحسن من اللي فات دكتاتوري هالإنسان كان في بلد ديمقراطي عايش فوق الغام كان مرتاح وراسه فاضي الممنوع إله مسموح كان لأن صاحبه قاضي مطنش على المخدرات ليضل شعبه طافي ليضل شعبه مصلي ملتهي عم بيتضحك كونه غير واعي فمن السهل فيه تتحكم ضو أخضر للشرطة عليه ما فيك تتشكى بحال فيك شكك بشكلك بشنجلك 30 سنة أكتر من أي رئيس بقى بكسر سكور الستيز نبيه بري بمصر بيقولوا معلق أنا التعتير ابني عم شوف شو بقى قتل من بارح لعبيه لقمة لمين بشكي حالتي مثل هالليين مرتي لقوم ننزل على ساحة تحرير دغري ب 11 شهر 2 سجلنا رحيل حسني القضى كل هالسنين يشتغل عميل ضد ثورة بعد ما خلصت هلا بعد ببلش لدورنا شكلها وصلت وانت بعدك بتفرشي ولك قوم وقف لاحق بسنانك تفرشي ولك قوم وقف صديق نظامك عم بيخزوي ثورة بعد ما خلصت هلا بعد ببلش لدورنا شكلها وصلت وانت بعدك بتفرشي ولك قوم وقف لاحق بسنانك تفرشي ولك قوم وقف صديق نظامك عم بيخزوي قوم يا مصري مفيش ثورة بتخلص في يوم وليلة دوس على نفسك شوية استحمل شد حيلك ما تخافش على عجلة الانتاج لازم ثورة على الزاد بكرة أحسن من اللي فات أنا مدني بلوح بقلمي كأنه علمي من عرقي بروي عملي كأنه عطشي البركة ببلدي العربي إن فيني أكون عفوي فيني أقوم ثورز بس كان مسموم بدني لحريتي بالتعبير ما في حدود حدني بتشوفني بساحة التحرير بوسط بيروت مش كرمال السما ترجع زرقا لإسقاط النظام ضد الحرية سلب فترة انتقالية فقرة إعلانية شاي وكليوباترا وشو صفرة سهرانة على النشرة الإخبارية ركلة جزائية والجمهور مستني الهدف كل يوم في الصحف نرى نبع عن كلبها بالبلد اقف عندك رجع الذهب مش انت برضو اللي كنت مسؤول عن اعلام بلد تصريح كذبة كلام عجب الصعب عدى والتاريخ انكتب اوعى تفتكر الشعب تعب ثورة بعد ما خلصت هلا بعد ببلش لدورنا شكلها وصلت وانت بعدك بتفرشي ولك قوم وقف لاحق بسنانك تفرشي ولك قوم وقف صديق نظامك عم بيخزوي ثورة بعد ما خلصت هلا بعد ببلش لدورنا شكلها وصلت وانت بعدك بتفرشي ولك قوم وقف لاحق بسنانك تفرشي ولك قوم وقف صديق نظامك عم بيخزوي قوم يا مصري مفيش ثورة بتخلص في يوم وليلة دوس على نفسك شوية استحمل شد حيلك ما تخافش على عجلة الانتاج لازم ثورة على الزاد بكرة أحسن من اللي فات قوم يا مصري مفيش ثورة بتخلص في يوم وليلة دوس على نفسك شوية استحمل شد حيلك ما تخافش على عجلة الانتاج لازم ثورة على الزاد بكرة أحسن من اللي فات
Vous Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi 2 décembre 2019 et bien sûr sur Radio Canu. Et c'était Mohamed El Deb, donc un rappeur contestataire égyptien. Et on enchaîne avec le National et un point sur mais c'est quoi la réforme des retraites ?
Alors que jeudi sera le premier jour de la mobilisation contre la réforme des retraites et plus globalement contre la politique néolibérale de Macron, il nous a semblé bon de revenir sur cette fameuse réforme et son contenu. Ainsi, si vous écoutez attentivement, vous pourrez ensuite argumenter face à vos collègues de boulot, votre famille ou vos amis. Alors clarifier les enjeux est aussi nécessaire pour faire face à la propagande et aux éléments de langage du gouvernement pour justifier la réforme. Comme par exemple mettre fin aux privilèges des régimes spéciaux, ou on travaille plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps, etc. etc. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que les origines du système de retraite actuel remontent à la fin de la Seconde Guerre mondiale, inspiré par les caisses de retraite issues du mouvement mutualiste qui existait déjà avant. Le Conseil national de la résistance avait décidé de généraliser le même système à l'ensemble de la société, donc c'est-à-dire des caisses gérées par des représentants des travailleurs et du patronat et financées par des cotisations, donc c'est-à-dire du salaire socialisé, du salaire indirect. Alors, il s'agit donc d'argent directement géré par les travailleurs et sur lequel l'État n'a, en théorie, aucune prise. Donc la retraite en France, jusqu'alors, elle consiste à un système fondé pour l'essentiel sur le principe de la répartition, les cotisations sociales des actifs servant à payer les pensions versées aux retraités. Un système de solidarité intergénérationnelle, mais aussi entre catégories sociales. Donc, porté par la CGT et le PCF, ce système est, avec celui de la sécurité sociale, une des plus grandes avancées sociales de l'histoire française. Sauf que depuis, l'État il s'est employé à de nombreuses reprises à reprendre la main sur les retraites. Or, ces dernières décennies, il y a eu plusieurs lois qui sont passées pour étendre, par exemple, la durée de cotisation nécessaire pour avoir une retraite à taux plein, ou encore repousser l'âge légal du départ à la retraite. En 93, Balladur pousse la durée de cotisation à 40 ans. En 2003, c'est Fillon qui impose également cette durée de cotisation aux fonctionnaires. Puis, plus récemment, en 2010, c'est le gouvernement Sarkozy qui pousse l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Alors aujourd'hui, la Macronie, elle veut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin et accomplir ce que tous les politiques néolibéraux rêvent de faire depuis des décennies, c'est-à-dire une réforme systémique, transformant en un système universel de retraite fonctionnant en points et remplaçant donc le système actuel avec cotisation et les 42 régimes différents. Alors, attaquons directement par le fondement de la réforme et ce qui va toucher tout le monde, la fameuse règle d'or, c'est-à-dire les retraites seront une enveloppe fixe et les cotisations n'augmenteront pas. Ce qui signifie que si les cotisations stagnent et que la proportion de retraités augmente, le montant des pensions va diminuer. Et c'est pourquoi la réforme, elle propose un système par points. Et c'est là le fond de la réforme. Jusqu'à aujourd'hui, le montant de la retraite, il se calcule en pourcentage du salaire. Donc la pension, elle est donc égale à une partie du salaire qu'on touchait. C'est ce qu'on appelle le taux de remplacement. Alors pour être à taux plein, aujourd'hui, il faut 43 ans de cotisation et avoir au moins 62 ans. Donc à taux plein, on touche 50% de son salaire actuellement, et avec les complémentaires, ça peut monter jusqu'à 75%. Alors le calcul du taux de remplacement, il se passe sur les 25 meilleures années de salaire, ce qui évite d'avoir les années de galère des personnes, de chômage, etc., qui pénalisent le calcul.
Dans le privé ?
Oui, dans le privé. Oui, j'en parlerai après, les fonctionnaires, oui. C'est un peu différent. Oui, bien sûr. En Suède, où la réforme a été mise en place... qu'est-ce que je raconte, c'est pas là, non. Oui, et c'est là que se pardon.
Et ça viendra plus tard.
Ça viendra plus tard. Et c'est là que se situe la grande différence du système par points. Le principe est de cumuler des points. Donc c'est une logique de capitalisation, comme dans pour les retraites privées, en travaillant et que tu reconvertis ensuite en pension au moment de ta retraite. Donc la retraite, comme dit le gouvernement, doit refléter toute la carrière. C'est-à-dire une véritable catastrophe, en fait, parce que en particulier pour les femmes, sont souvent forcées de renoncer de longues années à leur carrière pour élever des enfants ou autre, etc. Donc, en gros, ça veut dire qu'avant, on prenait vos 25 meilleures années, maintenant, on va prendre toute votre carrière, ce qui va faire fondamentalement baisser le montant des pensions. Et en Suède, où le système, la réforme a été mise en place dans les années 90, une étude parue en mars 2017 a montré que 92% des Suédoises auraient eu des retraites supérieures dans l'ancien système et 72% des hommes aussi. Donc, Voilà. Bon, un autre point majeur et qui sera probablement à l'origine d'une forte. Alors oui, non, juste reviens aussi par rapport aux femmes, parce que c'est elles qui sont vraiment les plus touchées. Hein. Il y a d'autres choses. C'est que les trimestres supplémentaires pour maternité, ils vont disparaître. Et aussi, il va y avoir une suppression des pensions de réversion en cas de divorce. C'est-à-dire, la pension de réversion, c'est ce qu'on touchait quand son conjoint ou son ex-conjoint était décédé. Et notamment, c'est lié au financement de l'éducation des enfants, etc. Surtout que c'est souvent à la charge des femmes. Voilà. Donc, un autre point majeur, et qui sera probablement à l'origine d'une forte mobilisation chez les fonctionnaires, voilà, on y est, c'est l'unification vers le bas de tous les régimes. Ce qui signifie que les fonctionnaires ne toucheront plus 75% du salaire touché les 6 derniers mois de la carrière comme aujourd'hui, mais vont cumuler simplement des points. Donc la baisse des pensions pour eux, elle va vraiment être drastique.
Je peux donner juste un exemple, hein, pour des professeurs des écoles, un sud éducation a envisagé un peu la perte que ça pourrait avoir, et pour quelqu'un qui a commencé à travailler à 24 ans, ce serait jusqu'à 570 € par mois, donc passer d'une retraite à 1900 à moins 500, hein, vous voyez, 1400 à peu près, pareil pour la plupart des fonctionnaires, c'est absolument catastrophique.
Voilà, et c'est ça. Et la diminution importante des pensions causée par la réforme va pousser les gens à faire ce choix, hein. Soit travailler beaucoup plus longtemps pour avoir une pension décente, ou partir pauvre à la retraite. Ainsi, pour la génération 90, pour avoir la même retraite qu'aujourd'hui, il faudra vouloir et pouvoir, hein, travailler jusqu'à plus de 67 ans pour certains profils, ce qui fait plus de 45 ans de cotisation en moyenne. Autre effet catastrophique de ce système est que, contrairement au taux de remplacement qui suit l'évolution des prix et des salaires, bah c'est que la valeur du point, elle peut stagner. La valeur relative, donc, c'est-à-dire par rapport au prix du point, elle pourra même diminuer en fait, avec le temps. Hein. Comme l'a dit le gouvernement, le montant sera revalorisé en fonction des prévisions économiques et de l'allongement de la durée de vie. Donc, vous voyez venir le truc. Hein. C'est-à-dire que, pour eux, on vit plus longtemps, donc autant faire baisser la valeur du point, hein, pour que les gens travaillent plus longtemps, hein, c'est QFD quoi. Donc on va se la faire bien mettre à l'envers. Et l'État, il va pouvoir définitivement aussi, comme ça, reprendre la main sur les retraites, hein, et toute cette manne financière, et les utiliser aussi comme un moyen de renflouer ses propres caisses. Quelque chose qu'il fait déjà avec la sécurité sociale actuellement. Et il suffira donc pour lui simplement de faire stagner l'augmentation du point par rapport au prix pendant quelques années pour faire du fric. Ce qu'ils font, par exemple, pour le point d'indice pour le salaire des fonctionnaires. Voilà. Autre effet, hein, en Suède, le niveau des pensions, il s'ajuste annuellement en fonction du montant des cotisations collectées, c'est-à-dire de l'emploi et donc du niveau de croissance. C'est-à-dire que lorsqu'il y a moins d'emplois, hein, les retraites baissent, et c'est arrivé deux fois, hein, ces 20 dernières années en Suède. C'est-à-dire que donc, on va être tous pénalisés, tous les gens à la retraite vont être pénalisés en cas de crise financière puis économique. Et Dieu sait que les risques de crise financière sont très importants, on en a déjà parlé.
Qu'est-ce que vient foutre Dieu là-dedans?
Oui, Dieu, tu m'as compris, quoi. C'est façon pareil. Bah, je pense quand même, quand t'es dans la finance, hein, t'as intérêt à croire en Dieu, hein, mais bref, voilà. Donc avec cette réforme, on passe donc d'une logique de solidarité générationnelle par répartition à une logique de capitalisation individuelle et de concurrence entre les individus. Donc la conséquence logique, hein, c'est les gens vont se tourner de plus en plus vers les complémentaires privés, ce qui indirectement risque aussi de renforcer les bulles spéculatives. Alors, pour défendre un projet de réforme aussi merdique, hein, pareil, le gouvernement nous ressort les bons vieux éléments de langage qu'on a déjà entendu en 2010 avec Sarko, hein. Par exemple, genre, on vit plus longtemps, blablabla. Faux, c'est faux, ou plutôt trompeur. On vit plus longtemps, mais l'espérance de vie en bonne santé stagne à 64,9 pour les femmes et 62,6 pour les hommes. Donc en gros, c'est-à-dire que tu vas passer avec la réforme direct de la case travail à celle de l'hôpital ou de la maison de retraite. Voilà, c'est génial. Autre argument du gouvernement. Le nombre de retraités augmente, donc il y a besoin de cotiser plus longtemps. Faux, archi faux. Hein. Les technocrates de Bercy et les conseillers en com omettent volontairement que si le nombre de retraités augmente, la productivité aussi, c'est-à-dire que pour le même temps de travail, on produit de plus en plus de richesses. Cette hausse de la production de richesses compense la hausse du nombre de retraités. Enfin, s'ils ne partaient pas directement dans le profit, hein, comme c'est le cas aujourd'hui, donc, c'est-à-dire en juteuse dividende pour les actionnaires. Hein. Ainsi, entre 2018 et 2019, les gains des actionnaires du CAC 40 ont augmenté de 13%. Et à côté, on fait des réformes pour baisser nos pensions de retraite. Alors que le chômage est toujours aussi élevé, hein, la réforme va avoir pour avantage aussi d'offrir au patronat une armée de réserve encore plus garnie de chômeurs, avec des petits vieux prêts à accepter des tafs ignobles pour avoir une meilleure retraite.
C'est pas gentil pour les soixantenaires.
Non mais voilà, moi je les aime. Bref, et dernier... Bon, vous allez arrêter de me faire chier. Et dernier argument bidon... Donc, et là on y vient, dernier argument bidon, il faut mettre fin aux privilèges de certains, donc aux régimes spéciaux, donc faire disparaître les fameux régimes spéciaux. Alors, c'est faux hein, cette histoire de privilèges, hein. Pourquoi ? Bah déjà, on vient de voir que le but de la réforme, hein, il dépasse largement la simple suppression des régimes spéciaux. Voilà, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire aux gens. Ensuite, Macron et sa bande négligent ici complètement aussi la raison d'être de ces régimes spéciaux. Des modes de travail et de rémunération différents, et surtout la forte pénibilité de certains métiers qui nécessitent de partir plus tôt à la retraite. Et voilà, et pour finir, hein, d'ailleurs, en parlant de privilèges, hein, et c'est là, là où c'est encore plus mensonger, c'est que certains vont les conserver, leurs privilèges, et on se garde bien de le dire. En particulier, devinez qui ? Les flics, bah oui, qui conservent leur régime spécial. Hein, le gouvernement a bien compris à quel point il a besoin de sa police actuellement. Et tout dernier élément de langage, et après j'aurai terminé, le système des retraites serait apparemment en déficit. Hein. Alors faux, hein. Ce déficit, comme l'a montré la CGT récemment dans un rapport, est organisé pour justifier une dégradation des retraites pour toutes et tous. Un rapport... du gouvernement a pointé un déficit prévu pour 2025 compris entre 7,9 et 17 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes de retraite, soit entre 0,3 et 0,7 du PIB. Mais selon le même rapport lui-même, hein, ce déficit serait la conjonction de deux effets. Côté dépenses, la part des retraites dans le PIB resterait stable à 13,8% d'ici 2025. Ceci grâce à une diminution des pensions par rapport au salaire, de l'ordre de 3%. Donc le déficit proviendrait donc de la baisse des ressources en fait affectées aux retraites qu'est en train d'organiser le gouvernement. Donc, et le même rapport note que les réserves du système de retraite sont évaluées à 5,6% du PIB actuellement, donc largement suffisantes pour passer le cap de 2025. De plus, le rapport finit en disant qu'ils sont bien obligés de reconnaître que l'équilibre financier pourrait facilement être atteint par une hausse modeste des cotisations, en moyenne un point de cotisation supplémentaire à l'horizon 2025. Donc même en se basant sur les évaluations de déficit du rapport, la situation du système de retraite, on le voit, n'a rien de dramatique comme on essaie de nous le faire croire. Donc voilà, bon, c'était un peu dense, hein, j'espère que vous avez réussi à peu près tout comprendre, et aussi que je vous ai convaincu de vous mettre en grève le 5 décembre et de venir dans la rue. Voilà, moi perso, je serai en grève et bien déterminé à faire plier ce gouvernement.
Mais juste, si vous voulez plus d'informations, il y a des sites qui sont très bien faits sur internet, notamment retraitesolidaires.com.fr où la CGT et la plupart des syndicats ont mis des sites et des infographies un peu partout où vous trouverez qui expliquent tout ça très très bien.
Voilà, et parce qu'on espère que vous êtes survénère, vous êtes forcément surintéressé par l'état des lieux de la mobilisation pour le 5 décembre et pour les jours qui vont suivre.
Ouais, une mobilisation qui s'annonce quand même vraiment massive et qui se limitera vraiment pas au seul secteur qui bénéficie des régimes spéciaux. Les entreprises privées ont déjà enregistré un nombre hyper important de préavis de grève, alors même qu'on n'est pas obligé de déposer un préavis dans le privé. Et la reconductible est appelée par plein de syndicats. Alors on va faire un petit listage. Hein. Ça nous donne...
Un petit listage.
Alors, dès le 20 septembre, les syndicats à la RATP ont lancé un appel à la grève reconductible à partir du 5 décembre, qui a été relancé par une interprofessionnelle nationale en octobre, qui regroupe la CGT, FO, Sud, FSU, bref, et plein d'organisations de jeunesse. Une reconductible qui a été très vite rejointe par la CFDT Cheminots, qui a déjà déposé un préavis de grève reconductible. Du côté de l'industrie chimique, la CGT, FO et Sud appellent aussi à une grève à partir du 5 et à reconduire le mouvement en Assemblée Générale. Ça concernera évidemment surtout les raffineries. Chez les routiers, CGT, FO et Solidaire Transport appellent à former des Assemblées Générales pour décider de la mobilisation. Mais là, bande à part, la CFDT, première organisation syndicale dans la branche des routiers, ne participera pas à la mobilisation. Avec 1 million de fonctionnaires, l'éducation nationale devrait enfin, il est temps...
Se bouger le cul.
Ouais. et connaître une petite mobilisation. Sud Éducation, CGT FO appelle
un
à une
recrue de rancœur.
Non, non.
Bon, je peux finir mon listing listage ou quoi?
Oui, bien sûr. Après toi.
Liste. Vas-y.
Donc dans l'éducation, ça va le faire dans au 5, mais bon, on attend de voir à quel point ça va être conduit.
Bah, il y a quand même un appel, pardon, juste dans l'éducation, des lycéens notamment, qui en tout cas, pour si les profs ne le font pas, les lycéens ont appelé à bloquer, il y a des tutos qui tournent, il y a pas mal de lycées, notamment en tout cas pour nous ce qui sont, nous concerne en métropole, qui appellent à ça. Quoi.
Merci Arnaud, j'y venais. Les lycées et les universités appellent à des blocages massifs à partir du 5 dans la continuation de la mobilité contre la précarité étudiante. Dans le secteur de l'énergie, EDF prévoit des coupures ciblées qui vont viser des entreprises qui licencient et surtout des bâtiments d'État. FO et Sud appellent également à la grève illimitée dans le secteur de l'énergie. 11 syndicats d'Air France appellent à la grève à partir du 5. CGT, FO et Sud appellent les soignants dans les hôpitaux qui sont en lutte quand même déjà depuis 9 mois à continuer et à rejoindre évidemment ce mouvement. Et enfin, la CGT Port et Doc appelle à une grève de 24 heures, pour l'instant seulement, pour la seule journée du 5. Bon, maintenant quelques questions. Quelle perspective va vraiment avoir ce mouvement et quelle ampleur va prendre cette nouvelle séquence? Face à un État qui refuse maintenant toute négociation, et qui se donne même plus les moyens et la peine de justifier ses décisions par l'illusion de l'intérêt général, on peut quand même déjà s'attendre à ce qu'il traite ce mouvement sous l'angle de la pure gestion du maintien de l'ordre et de la répression. La bataille qui s'engage maintenant va se jouer sur plusieurs terrains à la fois. D'abord sur le terrain de la circulation, circulation des valeurs, circulation des personnes, mais aussi celui de la contestation, principalement dans la rue. Alors comment faire pour maintenir les deux ensemble? Pour qu'à la fois le blocage logistique et économique dans les usines, sur les ronds-points, dans les gares, renforce les affrontements de rue et réciproquement. Et surtout pour obtenir quoi? En sachant que l'État va mettre tous les moyens en œuvre et disponibles pour lui pour rétablir le plus vite possible la fluidité du fonctionnement normal des choses et des capitaux, et qu'il en a surtout les capacités répressives et logistiques pour désamorcer tout mouvement dans la durée, quelles stratégies vont être adoptées par les syndicats, mais aussi par les étudiants et par les différents mouvements autonomes? Que peut-on attendre réellement de ce mouvement? Est-ce qu'il faut se limiter au retrait de la réforme des retraites? Au retrait carrément des dernières mesures de cette année? Ou faut-il carrément arracher à l'État de nouveaux droits avec une lutte offensive, tout en réactivant un nouveau type de grève?
Je comprends que t'es bugué. Parce que c'est...
Ça fait longtemps c'est qu'on n'a pas
non,
vu
non,
ça.
Non, mais t'as raison.
On n'a plus l'habitude, désolé pour ça.
Ou donc, on sera aussi attentif du coup à toute tentative de renouvellement de la grève, jusqu'aux grèves expropriatrices, pourquoi pas, afin de libérer des espaces de production et de les soustraire à la logique du profit. En tout cas, nous, on sera très actifs ici, et tous les lundis, on aura évidemment le droit à un petit point précis sur l'état des lieux.
Et même, on invitera, dans la mesure du possible, tous les lundis, des grévistes, bien sûr, en grève reconductible, et ce sera le cas à partir de lundi prochain. Alors, tu parlais justement de la capacité répressive de l'État, et de sa capacité à s'organiser par rapport à un mouvement social qui arrive et qu'il voit venir relativement fort. Alors, Castaner, bon, je pense que Castaner...
Ta mère fait...
Voilà. Je sais pas pourquoi, c'est une revendication relativement, relativement discutable. Après, bon, voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Castaner, on va vraiment venir tout casser chez toi, je la préfère, mais bon, puisqu'il a décidé donc de faire une nouvelle commande de ce petit instrument de quasi-torture, le LBD-40. Alors... petit récapitulatif historique depuis le début du mouvement des Gilets jaunes de l'année dernière, donc depuis novembre 2018, la répression contre le mouvement, et le mouvement des Gilets jaunes, mais les mouvements sociaux en général, dans leur ensemble, n'a cessé d'augmenter. Déjà en décembre 2018, Castaner, le ministère de l'Intérieur, ou c'était d'ailleurs c'était pas encore Castaner, mais c'était le ministère de l'Intérieur, en tout cas, avait commandé 450 super flashballs, on avait donné cette appellation. En gros, ce sont des fusils qui peuvent tirer jusqu'à 6 cartouches en quelques secondes. Et il avait également commandé 1280 LBD-40 monocoup, donc un seul coup par un seul coup. 6 mois plus tard, en juin, il commandait 40 000 grenades de désencerclement, donc vous savez, les Gli F4, je vais en reparler un peu après, ainsi que 25 millions de cartouches de fusils d'assaut. Tranquille. Aujourd'hui, Castaner, donc, qui est bien le ministre de l'Intérieur, en prévision de la grève qui s'annonce donc dure, a commandé à nouveau 1280 exemplaires de LBD-40 monocoup à l'usine Alcetex, donc Alsetex, qui est une entreprise d'armement située dans la Sarthe. Son adresse, c'est Malpère, 72 300 Pressigné. Son numéro de téléphone, c'est le 02 43 92 81 00. Je répète, 02 43 92 81 00. N'hésitez pas à appeler pour les faire chier. On rappelle que cette donc, entreprise, cette usine, vend et exporte des armes sur tous les continents. Ces armes sont utilisées pour mater les révoltes et les mouvements sociaux. Un exemple relativement récent, le Bahreïn, en 2013. Pourquoi celui-là ? Puisque les armes vendues par cette entreprise avaient fait 43 morts. C'est une entreprise qui produisait les grenades, enfin qui les produit encore mais qui les vend plus à la France, OFF1, qui a tué Rémi Fraisse le 26 octobre 2014. Et bien sûr, cette usine produit les fameuses Gli F4, donc ces grenades de désencerclement qui ont provoqué de très nombreuses mutilations depuis plus d'un an, dont au moins 5 morts arrachés, 21 blessés graves. Encore récemment, on en avait parlé pour l'acte 53, un journaliste indépendant s'est vu exploser une grenade de désencerclement Gli F4 en plein visage, lui arrachant son masque de protection et lui explosant le nez. Quant au LBD 40, la raison de ce sujet, ils ont déjà fait 218 blessés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, dont 25 personnes éborgnées. Encore récemment, les keufs ont donné le ton, mardi dernier, à Massy dans l'Essonne, on en parlait tout à l'heure, des lycéens sont déjà mobilisés dans le lycée Ville-Genis. Lundi et mardi de la semaine dernière, ces lycéens ont bloqué leur établissement en prévision du mouvement de grève de décembre, contre la réforme des retraites. Les flics sont arrivés en nombre, à grand renfort de lacrymo, dont certains en tirent tendu, mais aussi à coups de LBD 40, certains également en tirent tendu. On rappelle que les lacrymos ne peuvent pas être tirés en tirent tendu, mais seulement en cloche. Quant aux LBD 40, qui ont une précision très très forte, donc quand un policier tire, il sait où il vise. Donc normalement, il a le droit de viser les jambes et la poitrine, mais il n'a pas le droit de viser la tête. Et pour autant, c'est quand même une des cibles principales de nos chers policiers. D'ailleurs, l'impunité policière étant totale, une enquête... Quoi ?
Non.
Ah oui, d'accord. Vous parlez entre vous, très bien. Mais tu le dis dans le micro. Non, mais c'est logique. Donc, l'impunité policière étant totale, l'IGPN, donc vous savez ce que c'est, l'Inspection Générale de la Police Nationale, protège ses collègues responsables de violences policières. Une récente enquête de Mediapart, il y a 3-4 semaines, a démontré les proximités très fortes entre l'IGPN et les policiers mis en cause, a prouvé qu'il y avait des dissimulations de preuves récurrentes, très fréquentes, et le caractère bâclé des enquêtes qui blanchissent donc systématiquement la police. Alors, je disais pas tout ça pour péter l'ambiance, puisque évidemment, tout ça doit participer à notre énervement. C'est pas parce que la police continue à s'armer et continue à nous mutiler qu'on se laissera faire, bien au contraire.
Et maintenant, on va passer à une chanson.
Ouais, on va écouter le classique de Immortal Technique qui s'appelle Point of No Return.
Yeah, it's that real this time around. Immortal Technique, Revolutionary Volume 2. It's on now, motherfucker. Lock and load. This is the point of no return, I can never go back. Life without parole, upstate, shackled and trapped. Living in the hole, looking at the world through a crack. But fuck that, I'd rather shoot it out and get clapped. I've gone too far, there ain't no coming back for me. Auschwitz gas chamber full of Zyklon B. Just like the Spanish exterminating Tainos, raping the black and Indian women, creating Latinos. Motherfuckers made me out of self-righteous hatred, and now you got yourself a virus, stuck in the matrix. A suicide bomber, strapped and ready to blow. Lethal injection, strapped down, ready to go. Don't you understand, they'll never let me live out in peace. Concrete jungle, guerrilla war out in the streets. Nat Turner with the sickle, pitchfork and machete. The end of the world, motherfucker, you not ready. This is the point of no return and nobody can stop it. Malcolm Little when he knelt before Elijah Muhammad. The comet that killed the dinosaurs, changing the earth. They love to criticize, they always say I change for the worse. Like prescription pills when you misusing them, nigga. The Templar Knights when they took Jerusalem, nigga, and figured out what was buried under Solomon's temple. Al-Aqsa, the name is not coincidental.
I know too much, the government is trying to murder me. No coming back, like cutting your wrists open vertically. How could the serpent be purposely put in charge of the country? Genetic engineered sickness spread amongst me. My people are so hungry that they attack without reason, like a fucking dog ripping off the hand that feeds them. Immortal technique is treason to the Patriot Act. So come and get me, motherfucker, cause I'm not coming back. This is the point from which I can never return. And if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat. Cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before. Cause the place that I'm from doesn't exist anymore. This is the point of no return, nigga. You better believe this. Mary Magdalene giving birth to the children of Jesus. The evolution of the world, bloody and dramatic. Human beings killing monkeys to conquer the planet. The kingdoms of Africa and Mesopotamia. Machine gunning your body with depleted uranium. This is the age of microchips and titanium. The dark side of the moon in contact with aliens. I started out like Australians, criminal minded. Broke into hell, tore it down and built a city behind it. Southpaw, murderous methodology, nigga. Remember that I'm just a man, don't follow me, nigga. Cause once you pass the point, you can never go home. You gotta face the possibility of dying alone. So tell me, motherfucker, how could you die for the throne when you don't even got the fucking heart to die for your own? It rains acid, one day the earth will cry from a stone. And you'll be looking at the world living inside of a dome. Computerized humanity living inside of a clone. This is the place where the unknown is living and real. Wormwood, the planet X and the seventh seal. Universal truth is not measured in mass appeal. This is the last time that I kneel and pray to the sky. Cause almost everything that I was ever told was a lie. This is the point from which I can never return. And if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat. Cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before. Cause the place that I'm from doesn't exist anymore.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios et la plus organisée techniquement.
Non, mais il y a un quart d'heure, 15 secondes de blanc à la fin de la chanson, c'est pas d'une logique absolue non plus.
Du coup, on passe au local d'ailleurs, c'est à toi de parler.
Oui,
on passe sur une grève victorieuse et oui, il y a.
Mais oui, dans C'est Possible, des premiers camarades de Hébergement Solidaire nous ont montré la voie, donc on espère pouvoir continuer à les suivre. Donc ce qui s'est passé, c'est que le jeudi dernier, en fait, a été mis fin donc, à la grève des professionnels de l'urgence sociale, parce que bah, pour une fois, cette grève a été victorieuse. Ce qu'il faut rappeler, donc, c'est qu'il y avait pour un certain nombre de temps, quand même plus de 75% des professionnels de l'urgence sociale qui étaient en grève à l'échelle de la métropole, et qui en fait s'étaient donc mis en grève pour dénoncer des consignes que le ministère avait envoyées et que la préfecture avait donc relayées localement pour changer les critères de vulnérabilité. Merci. De l'accession en fait donc à ces systèmes d'urgence. De logement d'urgence. Et donc, si ces nouveaux critères étaient mis en place, en fait, donc un enfant à partir de plus d'un an, les femmes enceintes de moins de 6 mois et en dehors des personnes gravement malades, quasiment personne, en fait, pouvait avoir accès donc, à ces procédures d'urgence. Donc, je vais citer rapidement un de nos communiqués. Donc, nous refusons de jeter dehors une mère dont l'enfant vient de fêter son premier anniversaire. Nous refusons de ne pas pouvoir héberger une femme à la grossesse difficile parce qu'elle est coupable de n'être enceinte que de 4 mois. Il y a 10 jours, un homme de 25 ans décédé de froid à la rue à Lyon. Nous refusons à compter les morts cet hiver pour avoir appliqué des directives hors la loi. Parce que oui, en fait, une fois de plus, l'État s'était mis hors la loi parce qu'il y a en France un principe qui parle de l'inconditionnabilité et de la continuité de l'hébergement, donc qui dit qu'en fait, on ne peut pas mettre à la rue des gens une fois hébergés comme ça et qu'on est censé normalement accueillir tout le monde. Donc il y a une mobilisation donc exceptionnelle parce qu'il y a quand même 75% de grévistes, c'est quand même des taux extrêmement importants et ça a très très bien marché parce que peut-être grâce à la pression dans prévision du 5, on ne saura jamais, mais en attendant, le ministre a ordonné à la préfecture de relâcher sur cette question et donc de remettre en place le système traditionnel. Et voilà, et donc je vais passer à mon deuxième sujet.
Ah, très bien. Non, je savais pas, transition. Et donc, Fête des Lumières, vous savez, qu'on déteste presque tous, eh bien, est de plus en plus sécuritaire. À toi.
Bah, que ça dé... Ça, c'est beau. Non, mais oui, parce que je voulais revenir quand même un peu rapidement, parce que là, depuis quelques jours, commence à sortir en fait un certain nombre d'articles qui nous décrivent une fois de plus le système sécuritaire de cette aberration lumineuse qui va nous emmerder pendant en toute la fin de la semaine. Et donc, on a quand même simplement déjà, parce qu'il y a assez impressionnant à voir, c'est dans certains journaux, voir le lien qui est mis en fait sur la menace, un mélange en fait sur la question du terrorisme, de la manifestation du 5 décembre et de la manifestation prévisible des Gilets jaunes de samedi, qui sont mis sur le même plan sécuritaire et tant comme la même problématique pour les forces de l'ordre et de pour protéger cet événement. Donc il faut quand même imaginer que pour défendre ces quelques ampoules à LED et les millions de personnes qui vont aller les admirer, 1200 forces de l'ordre ont été mobilisées. Donc il y a quand même la municipale, la police aussi nationale, la gendarmerie, les militaires et un certain nombre de milices privées. On va voir quand même que aucun véhicule, même les trottinettes en fait, sont interdits sur la presqu'île de 18h à minuit et non, que
pour les trottinettes c'est pas grave.
Bah les trottinettes elles sont pas toutes électriques, certains c'est pas les...
ah, oui.
Toutes trottinettes. Ça existe, les trottinettes à la main, ça existe encore. Enfin, à la jambe plutôt, disons.
Je savais pas que t'étais un spécialiste des trottinettes.
Ah, mais moi non plus. Que l'ensemble en fait, des transports en commun seront coupés et que la presqu'île, à partir de 16h, la plupart des transports en commun qui devraient passer sur la presqu'île seront donc fermés, et ce qui empêchera à peu près donc tous les travailleurs de pouvoir rentrer facilement chez eux. Un dispositif anti-drone sera mis en place par la gendarmerie qui aussi va déployer, en lien aussi avec les pompiers, des brigades fluviales pour surveiller les fleuves. Le plan Orsay, donc, qui sera prêt à être mis en place. Donc, pour rappeler, le plan Orsay, c'est un plan d'urgence en urgence absolue qu'on peut voir dans les événements, dans les catastrophes naturelles ou dans les épisodes de terrorisme très importants, où en fait la préfecture prend le contrôle de l'ensemble des moyens de sécurité et de santé pour pouvoir mieux coordonner tout ça. Enfin, l'ensemble des hôpitaux seront en pré-alerte pendant toute la période. Donc on peut imaginer les véritables fortunes qui vont être dépensées simplement parce que pour que quelques millions de crétins puissent venir admirer des LED que tout bon Lyonnais a appris à fuir depuis quelques années. Et voilà, et donc ça fait un peu cher les marrons chauds les marrons et le vin chaud.
Et on va passer à une dernière petite chanson. DJ, peux-tu nous la décrire?
Une dernière chanson de rap, on était très rap aujourd'hui avec Nas, Affirmative Action.
They want, huh? This is what it's all about. Wow, time to take affirmative action, son. Cause just don't understand, you know what I mean? Niggas coming sideways, thinking something sweet, man. You know what I mean? Niggas don't understand the four devils. Lust, envy, hate, jealousy. Wicked niggas, man.
Yo, sit back, relax, catch a contact, sip your cognac, and let's all wash this money through this laundromat. Sneak attack, a new cast and rap, worth top dollar. In fact, touch mines and I'll react like a Rottweiler. Hoop over late, we play for high stakes at gunpoint. Catch them in break, undress them time with tape. No escape, the Corleone, Fettuccine, Capone. Home in your own zone or get kidnapped and clapped in your dome. We got it sewn, the firm art of war's unknown. Lower your tone, face it, homicide cases get thrown. Aristocrats, politic and deli with diplomats. See me, I'm unofficial Mac, Lex, Coop, Flip,
criminal
black.
Thoughts in the group wars, my destiny's to be the new boy. A nigga poorly gotta die too short. A nigga's dead on, at Kia Heron. They found his head on, the couch with his dick in his mouth. I put the hit out, yo, the smoothest killer since Bugsy. Bitches love me, in Queens where my drugs be. I wear guest jeans and rugbies. Yo, my people from Medina, they will see you. When you re-up, bring your heater or your queen go between us. Real shit, my Desert Eagle got an ill grip. I chill with niggas that hit Dominicans, pots of steel bricks. My red beam made a dread scream. It's pray the Fed team. Corleone be turning niggas to fiends. Yukons and Ninja Black Lexus. Mega the pretty boy with mafia connections. It's the firm, nigga.
nigga said it. Yo, my mind is seeing through your design like blind fury. I shine cherry sipping on crushed grapes. We lust papes and push cakes inside the casket that just wait. It's sickening. He just finished bitting up state and now the projects. It's talking that somebody gotta die shit. It's logic as long as it's nobody that's in my clique. My man Smoke knew how to expand coke and Mr. Coffee. Feds cost me 2 mil to get the system off me. Life's a bitch, but God forbid the bitch divorce me. I'll be flooded with ice or hellfire can't scorch me. Cuban cigars, meeting Foxy at the Mars, moving cars. Your top poppy, Senor Escobar.
In the black Camaro, firm, deep, all my niggas heal the blackest barrel. While the bees beat the apparel through the darkest tunnel. I got visions of multi-millions in the biggest bundle. In the Lex, pushed by my nigga Jungle. E-money bags, got my West Sean Don bundle of 62. They ain't got a clue what we about to do. My whole team, we shitting hard like Zaw. Soul Side, Foxy Brown, Cormega and Escobar. I keep a fat marquee piece, laced in all the illest snakeskin. Armani sweaters, Carolina Herrera. Be the firm, baby. From BK to the bridge, my nigga Wiz. Operation Firm Biz, so what the deal is? I keep a fat Jewel, sipping Christie, sitting on top of 50 grand in the Nautica van. We stay incognito like all of thug niggas in Marcy. The God, they praise Allah with visions of Gandhi. Bet it on, my whole crew is Don Juan. On Cayman Island with a case of Cristal and Baba Shala spoke. Nigga with them Cubans and snort coke. Rordo, an ounce mixed with leak that's pure though. Flipping the bigger picture, the bigger nigga with the cheddar. Was mad shit, but he had a fucking villa in Manila. We got the fleet of Panama. But weight is half and half, keys is 1 2/5 on how we flip. 32 grams raw, chopping a half, get 16. Double it times 3, we got 48, which mean a whole lot of cream. Divide the profit by 4, subtracted by 8. We back to 16, now add the other 2 that Mega bringing through. So let's see, if we flip this other key, then that's more for me. Mad coke and mad leak, plus a 500. Cut in half is 250, now triple that times 3. We got 3/4 of another key. The fur, baby, volume 1,
Vous êtes toujours sur Radio Canu et le Canu Info du lundi 2 décembre et c'était Nas avec Affirmative Action. Et on passe à un petit dossier qu'on découpera de lundi en lundi sur une histoire de la grève, parce que la grève, eh ben, c'est bien.
Mais qu'est-ce que c'est en fait la grève ? Est-ce que c'est un outil syndical ? Est-ce que c'est un moyen de pression pour gagner des droits ? Ou est-ce que c'est la condition de toute émancipation des travailleurs ? Ou bien encore, est-ce que c'est un mythe dont a besoin la classe ouvrière pour maintenir ouvert l'horizon révolutionnaire ? On va vous proposer donc une petite histoire de la grève sur plusieurs épisodes. Aujourd'hui, selon le temps qui nous reste, on ira jusqu'à la Première Guerre mondiale ou jusqu'au Front populaire en 1936. Au XVIIIe siècle, faire grève, ça veut seulement dire attendre un emploi sur la place de grève à Paris, devant l'hôtel de ville, où les ouvriers attendaient tout simplement de se faire embaucher. Mais très vite, dans le sillon de la Révolution française, hein, qui est une révolution quand même avant tout libérale, et à l'aube de la constitution d'une classe ouvrière en tant que telle, la grève est paradoxalement reconnue, ou en tout cas nommée, par une loi qui la nie. En effet, la loi Le Chapelier de 1791 interdit tout ce qu'on appelait à l'époque le droit de coalition. Mais en interdisant toute coalition, finalement, cette loi, elle établit paradoxalement les conditions du développement de la grève comme moyen, comme seul moyen, et comme moyen privilégié pour la lutte ouvrière, puisque dans un contexte où la relation de travail et la relation sociale est basée sur le contrat de gré à gré, la grève collective devient la seule possibilité de défendre les intérêts du salarié et de sortir du tête-à-tête entre employé et employeur. Bref, dans ce contexte-là, en tout cas, toute grève reste très difficile dans une société où règne licenciement abusif, interdiction des associations, répression, sévérité de la justice, pour donner un chiffre. Entre 1825 et 1864, sur 40 ans, il y a 10 000 ouvriers qui sont emprisonnés pour fait de grève. Mais un des principaux facteurs de limitation de la grève, ça reste l'existence du livret de travail qui est attaché à chaque ouvrier, qui est un véritable matricule judiciaire du travail qui assujettit l'ouvrier à l'employeur, où il va noter tout ce qu'il fait, s'il a fait grève et tout et tout. Donc tout ça, évidemment, ça limite les grèves qui restent ponctuelles et très défensives. En 1864, Napoléon III, à ce moment-là, il a besoin du soutien populaire, il reconnaît en partie le droit de grève, mais c'est pour mieux le contrôler. Il remplace ce qu'on appelait le délit de coalition, donc, par celui d'atteinte à la liberté du travail, qui devient très vite, et jusqu'à aujourd'hui, hein, un des leitmotifs idéologiques favoris du patronat français. L'atteinte à la liberté de travail. Malgré tout, la durée des grèves, leur nombre, augmente. Par exemple, on peut parler de la grève des ovalistes en 1869 à Lyon, où les ouvrières de la soie ont tenu un mois de grève avec l'appui des caisses de grève qui sont mises en place, surtout avec l'aide de l'Association internationale des travailleurs qui est créée en 1864. La grève prend de plus en plus d'ampleur avec la loi Waldeck-Rousseau en 1884 qui légalise l'existence des syndicats. Les grèves deviennent alors de plus en plus offensives, elles deviennent un moyen d'action privilégié pour les ouvriers pour faire valoir leurs revendications immédiates. Mais là on parle de la grève. Mais alors comment est-ce qu'on passe de la grève comme un moyen d'action pour réaliser des revendications à la grève générale comme condition de la révolution sociale ? Peut-être qu'il faut dire que l'idée de la grève générale en tant que telle se généralise au moment de la Commune. Avant, elle n'est pas du tout populaire. Avant la Commune, la modalité de lutte favorite pour la classe ouvrière, c'est pas du tout la grève, c'est l'émeute. La grève, elle est réprouvée, elle est rejetée au nom de plein d'arguments. On dit qu'elle est inutile, qu'elle réussit trop rarement, que les avantages sont susceptibles d'être tout de suite remis en question, et surtout qu'elle nuit à la richesse du pays. Avant la Commune, une des leçons qu'on tirera aussi à la fin de la Commune, c'est que la lutte armée, la stratégie barricadière, comme il l'appelait, qui était mise en place avant, au XIXe siècle, elle devient, après la Commune et son écrasement, de plus en plus difficile face à un pouvoir toujours mieux armé qui maîtrise évidemment l'innovation technologique. Alors ce qu'il faut bien noter, c'est qu'à partir de ce moment-là, de la fin de la Commune, faire l'histoire de la propagation de l'idée de la grève générale, à cette époque, ça revient à faire l'histoire de la naissance du syndicalisme révolutionnaire français. En 10 ans, on observe la transformation qui s'opère au sein de la classe ouvrière. La grève, qui était d'abord tenue pour un fléau, devient le moyen de la lutte sociale, qui sert à la fois à affirmer l'émancipation des travailleurs par eux-mêmes et à dépasser les limites de l'insurrectionnisme sans pourtant y renoncer. Alors, première étape, le réajustement de stratégie, on a dit, à partir de la fin des années 1880. En 1886 s'ouvre ce qu'on peut appeler le moment de la révolution des bras croisés, qui est impulsé par un gars qui s'appelle Joseph Tortelier, premier propagandiste en France de l'idée de grève générale, accompagné ensuite de Briand et de Pelloutier. Tortelier, il devient le porte-parole de la grève générale, il fait la propagande dans les faubourgs parisiens et il est aidé dans cette propagande par beaucoup d'ouvriers blanquistes. Il est très vite soutenu par Émile Pouget, qui cherche à ouvrir l'anarchisme et vers le monde ouvrier en mettant en place toutes les structures de l'anarcho-syndicalisme. L'idée de la grève générale s'introduit alors peu à peu dans les conseils ouvriers, se diffuse dans les congrès des organisations confédérées. La grève générale devient à ce moment-là, à la fin des années 80, au début des années 1890, la pomme de discorde qui scinde clairement les syndicats entre d'une part partisans d'une révolution économique et d'autre part partisans d'une révolution sociale. La grève générale devient alors un enjeu central et un thème majeur qu'on discute surtout au sein de la Fédération de la Bourse du Travail qui est créée en 1892 avec des vaillantistes, des alémanistes qui sont tous opposés à Jules Guest. D'autre part, le secrétaire de...
Tu peux expliquer qui est Jules Guest ?
Jules Guedde.
Ah, on dit pas le S.
Non, c'est pas grave.
Mais on reviendra à l'opposition avec les socialistes, ensuite. tu anticipes, tu vas trop vite.
D'accord.
Mais tu pourras le faire peut-être la semaine prochaine.
3 minutes.
Plus décalé. Donc là, je suis complètement perdu. Non, voilà, j'en étais à Fernand Pelloutier, donc secrétaire de la Fédération de la Bourse du Travail, qui lui aussi va participer à l'animation de l'idéologie de ce qu'on appelle le grève généralisme, qui va emprunter vraiment la fondation de la CGT en 1902. La grève générale devient à ce moment-là, du coup, la pierre angulaire du mouvement syndical. Et surtout, ça fait vraiment sa spécificité, comparé par exemple au trade unionisme anglais ou comparé au mutualisme allemand. Venons-en au socialisme. Le socialisme, il a un peu du mal quand même avec l'idée de grève générale, et tout de suite. Et surtout avec Jaurès. À ce moment-là, le syndicalisme révolutionnaire, il est vraiment porté par un triptyque. On a d'un côté Griffuel, qui est un blanquiste, d'un côté Pouget, qui est un libertaire, qui dirige le tirage du journal La Voix du Peuple, et le troisième, c'est Georges Yvetot. Tous les trois sont donc à la pointe de la CGT vraiment révolutionnaire. Et contre eux, Jaurès met en garde contre la grève générale qui amènerait à la terreur, comme il dit dans un essai qui s'appelle « Grève générale et révolution ». Mais en réponse, Pouget accuse Jaurès d'être surtout complètement déconnecté de la classe ouvrière. Il redéfend Pouget une minorité active dans ses grèves générales, qui organiserait ses grèves générales. Et surtout, il utilise ce débat pour relégitimer la nécessité au recours de la violence. Mais l'âge d'or vraiment de la grève générale, c'est 1906, au moment du congrès d'Amiens, où est votée une motion qui reconnaît la légitimité de la grève générale aussi en partie chez les socialistes. C'est une grande victoire du syndicalisme révolutionnaire. Et dans cette charte, qui est donc signée, et qui consacre la grève générale comme un moyen de lutte principal pour l'émancipation des ouvriers, elle dit clairement que la grève générale ne doit pas seulement chercher à satisfaire des revendications particulières propres à tel ou tel secteur, mais qu'elle doit aussi, et là je cite la charte, préparer l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Le syndicalisme préconise comme moyen d'action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupe de production et de répartition base de la réorganisation du social. De la réorganisation sociale. Donc une véritable ambition révolutionnaire par la grève générale qui doit être vraiment le tremplin pour ça. 1906 aussi, le 1er mai 1906, c'est une grosse grève qui se met en place, qui a aussi comme mot d'ordre principal les 8 heures, et non pas encore la révolution sociale dans son ensemble. En mars 1806, la catastrophe de la mine de Courrières entraîne aussi des grèves massives des mineurs, qui font très très peur à la bourgeoisie, et qui aussi obtient des victoires comme le repos dominical. Puis vient très vite, à la veille de la Première Guerre mondiale, le temps de la répression dirigée par le premier flic de France, Clémenceau. Là, ce sont vraiment des massacres de la République française contre les manifestants qui sont régulièrement tués. Citons par exemple l'exemple de Narbonne en 1907, ou les fusillades plus connues en banlieue parisienne de Villeneuve-Saint-Georges. Harcèlement, arrestation des leaders révolutionnaires